des mots pour le dire. Dominique Demichel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Après une audition, une conférence ou un rendez-vous d'embauche, vous êtes peut-être déjà posé, demandé à quoi pouvaient bien servir ces émotions qui prenaient un malin plaisir à vous faire rougir, bafouiller ou bien trébucher. D'où viennent-elles? Comment maîtriser les émotions? Eh bien, nous tenterons de répondre à ces questions et à bien d'autres avec le docteur Dominique Demichel en nous appuyant sur cet article paru dans la revue Archipel, revue éditée par l'association Jalmav en Eure-et-Loire.
Je meurs de faim, maman.
Oui, je sais.
Bambi, viens. Regarde.
L'herbe du printemps.
Les fourrés.
Ta mère ne pourra plus jamais être près de toi.
Si vous n'avez jamais pleuré en visionnant la scène où la mère de Bambi se fait descendre par des vilains chasseurs, c'est que vous êtes sûrement une machine. La mort de la maman du célèbre fan a sûrement beaucoup fait pour l'industrie du Kleenex. Bonjour docteur Dominique Demichel.
Bonjour Simon.
Je veux vous essuyer aussi la petite larme qui coule, coule dans vos yeux.
Bah, oui.
Dans cet extrait, c'est étonnant, la musique accompagne à merveille les différentes émotions. Au début, la joie, la peur du chasseur et la tristesse. Ouais. La musique fait beaucoup pour les émotions dans le cinéma, on ne le dira jamais assez, mais là, c'est flagrant.
Hein. La musique, c'est l'art d'utiliser les sons pour dire une émotion, au fond. Donc, voilà, c'est ce qu'on disait lors de la précédente émission aussi. Il y a dans un texte toujours, enfin dans une parole, il y a toujours et du texte et de la musique. Dans la voix, il y a toujours de la musique. Et là, au fond, dans ce silence, il y a quelque chose du côté de l'émotion qui est porté par la musique.
En introduction, je demandais à quoi servaient ces émotions. C'est ce que nous allons tenter de répondre dans cette émission. Juste une petite parenthèse, on a l'impression que les animaux sont bien mieux adaptés que nous pour gérer leurs émotions. Ils ne se posent pas de questions, paf, ils partent au galop au moindre craquement de brindilles dans la forêt.
Oui, vous croyez que nous, on ne part pas au moindre craquement de brindilles?
On a perdu un petit peu ça quand même, non?
On a d'autres craquements que brindilles quand même, mais il y a des choses quand même, il me semble que quand on a, je sais pas, dans une entreprise, le chef qui arrive par exemple, et qu'on sait qu'il est pas commode et qu'il va râler, ça équivaut au craquement de brindilles, je crois. Donc voilà, c'est pour ça que dans la fonction de ces émotions, il y en a deux parties. La première, c'est une fonction d'adaptation, et la deuxième, c'est une fonction de communication.
L'adaptation, j'imagine, c'est exactement ce cas-là pour nous alerter du danger.
Exactement. Cette fonction d'adaptation, c'est nous alerter exactement d'un danger et nous permettre de ressentir pleinement ce qui se passe dans la situation, que ça soit une bonne nouvelle ou que ce soit une mauvaise nouvelle.
Hein. Alors, je parlais des craquements de brindilles parce que aussi c'est le son, l'ouïe, a un rôle extrêmement important dans cette adaptation.
Oui.
La nuit, on peut se réveiller pour un son qui est inhabituel, par exemple.
Voilà, voilà.
On ne voit rien, on dort.
Voilà. Et par rapport à la question que vous posiez la dernière fois du côté de l'apprentissage, on voit bien que ce son, il est extrêmement contrôlé aussi par notre subjectivité. Je donne souvent cet exemple-là, qu'un enfant, un nouveau-né par exemple, ou un nourrisson, ou même un nouveau-né, ou un nourrisson, qui est dans la pièce à côté, son père ou sa mère va l'entendre et ça va le réveiller, alors que s'il y a un avion qui passe le mur du son en plein milieu de la nuit, ça va être intégré comme pas de danger et hop, ça réveille pas du tout. Voilà. Hein. Voilà. On sait que, je ne sais pas, si on a l'habitude, par exemple, d'entendre, je ne sais pas, moi, dans la maison où je dors, il y a une chouette qu'on entend vraiment très, très bien. Et pratiquement tous les gens qui viennent dormir à la maison disent, au fait, tu as une chouette dans le bois d'à côté. Donc, ils l'entendent et pratiquement, parce qu'on l'entend presque toutes les nuits. Moi, en gros, je ne l'entends plus du tout, quoi, parce que j'ai l'habitude, je sais qu'elle va faire son cri, hein, donc... Voilà, donc cette fonction d'adaptation et d'adéquation au monde est très importante. En effet, le moins de bruit anormal, mais aussi l'odeur. Hein, l'odeur, c'est très, très important. Voilà, si ça sent un petit peu le brûlé, hop, tout de suite, on est extrêmement, extrêmement vigilant et rapidement vigilant, hein, quel que soit l'endroit. Hein. Même si on n'a aucune expérience du feu, on sait que c'est dangereux. Donc, le bruit, l'odeur... Et puis la vision, hein, de temps en temps, hein, voilà. Un éléphant qui charge. Voilà, absolument. Mais on pourrait dire de manière aussi plus décalée, si lorsqu'on se promène en forêt, au détour de chemin, on voit un bout de bois qui ressemble à un serpent et qui a un jeu de lumière qui fait qu'on croit qu'il bouge, hop, tout de suite, vous voyez, le système d'alerte se met en place. Il va peut-être durer 3 secondes parce qu'on va identifier que c'est un bout de bois et hop, on reprend la marche comme si c'était rien passé, mais ce système visuel, enfin tous nos sens, voilà. Et on sait très bien, par exemple, que, mais là c'est plus du domaine uniquement de la sensation, donc moins des émotions, mais que quelque chose qui nous touche, enfin un objet ou une personne qui nous touche, voilà, si on arrive par l'arrière, par le dos de quelqu'un et qu'on lui touche, s'il est par exemple perdu dans ses pensées, qu'il n'a pas du tout anticipé, il peut faire un grand bond, par exemple, hein, voilà, qui est aussi une fonction d'adaptation. Donc là, il y a une émotion, on s'adapte pour être performant. Et c'est vraiment l'évolution du genre humain qui a développé ces systèmes-là pour assurer notre survie. Hein. Voilà.
Alors, ça fonctionne. C'est quoi ? C'est le rythme cardiaque qui s'accélère, les vaisseaux voilà. qui se dilatent
Voilà, exactement. Et essentiellement, tous les systèmes de mise en vigilance, c'est-à-dire nos muscles sont plus performants, on pourrait dire notre œil voit mieux, nos oreilles entendent mieux, nos articulations sont prêtes. Voilà. Je me souviens très très bien, moi, une fois... il y avait un enfant qui était dans la rivière, qui était petit, il s'est laissé emporter par le courant, et j'ai couru sur des galets, j'étais pieds nus pour aller le rattraper. Il a eu peur, et tout le monde a eu un peu peur, même s'il n'y avait absolument aucun danger. Je peux vous dire que quand j'ai vu l'état de mes pieds après, c'était pas joli à voir, mais quand j'ai couru, je n'ai strictement rien ressenti, pas la moindre douleur. Voilà, et j'ai couru, alors que d'habitude, on y va prudemment sur les galets, c'est pas joyeux. Mais là, j'ai couru très très vite, et puis bon, puis voilà, alors, c'est tout.
Sait-on, par exemple, à quoi sert la sueur froide ?
Je sais pas, je sais pas répondre.
Voilà, il y a certains mécanismes qui paraissent étranges, quoi. On comprend le rythme cardiaque, c'est l'accélération pour courir plus vite, pour voilà. La sueur froide, ça va toujours.
Non, globalement, c'est la sécrétion d'adrénaline qui c'est ça. Voilà.
C'est vraiment la sensation de froid hein, quand même qui.
Oui, oui, oui. Mais l'adrénaline a cette fonction de vasoconstriction partout pour voilà, ça augmente la pression artérielle. Donc en même temps, ça entraîne la sueur. D'accord. Je pense pas que la sueur en elle-même. Il faudrait demander à des physiologistes plus compétents que moi. La sueur n'a pas d'utilité en elle-même, mais c'est la sécrétion d'adrénaline qui entraîne tous les effets, puisque dans toutes les parties du corps, le poumon, le cœur, les muscles, etc., les artères, il y a des récepteurs à l'adrénaline, alors que pour le système sympathique, c'est l'acétylcholine. Il y a des récepteurs à l'adrénaline, à la noradrénaline, donc ça a un effet global, partout.
Alors, adaptation et la deuxième utilité de l'émotion, c'est la communication.
Voilà.
Alors, je rougis, évidemment, tout le monde voit que je rougis. J'ai pas l'air très, très intelligent quand je rougis, mais bref, les gens comprennent ce langage-là, en tout cas.
Voilà, voilà, tout à fait. Et puis, parce que, quand même, une grande partie des émotions ont un peu pour objectif d'être partagées, au fond. Hein, ça vaut. Une émotion, elle peut valoir pour soi tout seul. On peut être en train de regarder un film tout seul dans une salle de cinéma et avoir une émotion. Ça vaut, mais globalement, ça sert à être partagé. Ça nous permet de dire quelque chose de nous-mêmes à l'autre, et ça nous permet, nous, quand on est devant quelqu'un qui a une émotion, de recevoir cette émotion et donc d'ajuster. Vous voyez, hein, il y a quelqu'un qui, justement, qui rougit, on va savoir qu'il n'est pas très à l'aise. Voilà, alors de temps en temps, si on est un peu sadique, on va en rajouter. Si on est plutôt aimant, on va lui dire, dites-moi, dites-nous. Voilà, on va essayer de voir si on peut vous aider à dire ce que vous avez à dire.
Alors on a le sentiment que c'est souvent handicapant. Je parlais du trac, des balbutiements qu'on peut avoir dans ce type d'émotion. Est-ce que c'est une généralité ou...
Que les émotions soient handicapantes.
Soient handicapantes dans le cas de la communication, en tout cas, on rougit, on balbutie, on a le trac.
J'aurais tendance à penser que non. Certaines émotions, lorsqu'elles prennent une ampleur importante, vont être très gênantes. Il y a des gens qui ont un trac tel qu'ils ne vont pas pouvoir monter sur scène. Voilà. Mais la majorité des acteurs, dans ce que j'ai pu en entendre, disent que le trac, c'est très fondamental pour eux. C'est-à-dire, ça leur permet d'avoir un petit peu plus la niaque, d'y aller. Voilà. Et puis, moi, dans mes études, j'ai quand même passé beaucoup, beaucoup d'examens. J'avais souvent quand même des tas de symptômes avant de rentrer dans la salle d'examen. Mais ensuite, dès que j'avais la copie, hop, ça y est, le stress tombait et puis on y allait. Hein. Donc, je pense que cette émotion mobilise à l'intérieur de nous-mêmes des capacités, des potentialités. Si l'émotion est trop importante, alors en effet, elle peut devenir paralysante, voilà. Voire de temps en temps handicapante dans certaines situations où on perd ses moyens. Voilà. C'est fait pour nous donner plus de moyens. Si c'est trop important, ça peut nous permettre de perdre nos moyens.
Alors, le message qu'envoie une émotion, pourquoi ce message-là, on pourrait très bien le dire avec des mots Parce que c'est beaucoup plus subtil, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible.
C'est de l'ordre de l'indicible. Et puis, surtout, dans l'émotion, il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas. Hein. Donc, il y a quelque chose que l'on fait à notre insu, finalement. Hein. Vous preniez l'exemple de rougir. Essayez donc de rougir volontairement. Si vous pouvez contracter votre visage, mais ça ne va pas être très, très efficace. Tandis que dans le fait de rougir, on vient dire quelque chose de la profondeur de soi-même à l'autre. Alors, de temps en temps, on n'a pas du tout envie de le faire et ça nous échappe. Mais ça, c'est quand même un élément de communication. Voilà, comme le fait de trembler dans la voix, de bégayer, de ne pas y arriver. Hein. Voilà. Donc, je pense que cette émotion, elle a une vraie valeur de communication. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est de se dire par rapport à ça que la façon dont on a été élevé et dont l'émotion a été accueillie en particulier par la sphère familiale est très, très déterminante. Hein. Je crois que c'est très important, et peut-être ça vaut pour nos auditeurs, se dire que lorsque les parents accueillent avec générosité l'émotion de l'enfant, ils favorisent le fait que l'enfant va pouvoir avoir une relation de plus grande liberté par rapport à cette émotion, donc, in fine, de pouvoir plus la contrôler. Hein. On avait parlé lors de l'émission précédente de la colère. La majorité des colères viennent d'émotions qu'on a refoulées, qu'on a verrouillées, on a mis une chape de béton dessus. Et puis à un certain moment, ça explose et au fond, ça ressort.
Alors là, on a aussi la contagion un petit peu des émotions, on en avait aussi parlé, mais quelqu'un de très calme dans une pièce va calmer les gens, et puis au contraire, un super hiérarchique très, très énervé va mettre tout le monde anxieux.
Oui, tout à fait.
Ce rapport de domination est également important de pouvoir rentrer en ligne de compte beaucoup dans les émotions.
Voilà, que ça soit dans une dimension positive ou négative. Moi, je sais par exemple que quand j'examine les petits-enfants allongés sur la table d'examen, par exemple, ils disent « ça chatouille » et en général, je leur dis « ah oui, le rire, voilà, c'est comme ça » et je leur dis « et le rire, c'est une émotion très contagieuse Pourquoi ? Parce que quand il y en a un qui rit, tout le monde rit. Et d'ailleurs, en général, juste avant, voyant leur enfant rire, le parent qui est présent se met à rire. Hein. Et puis, on sait bien qu'il y a des gens, moi j'ai un de mes frères, par exemple, qui est très très doué pour raconter des histoires drôles. Et donc, dans la musique de sa voix, il porte une émotion et il commence à raconter une histoire. Et déjà, tout le monde rigole. Et moi, quand je raconte la même, tout le monde sourit parce que c'est drôle, mais ça n'a pas du tout la même émotion, la même puissance. Donc, en effet, les situations sont comme ça. C'est-à-dire, l'émotion vient porter une atmosphère, c'est ce que vous disiez. Et c'est vrai sur le plan négatif, hein, c'est-à-dire il y a des gens qui rentrent dans une pièce, hop, c'est le grand silence dans tout le bureau parce que ils apportent en même temps, leur despotisme ou leur haine ou je sais pas trop quoi. Hein. Et puis on le sent par exemple, c'est quelque chose que je compare souvent, c'est l'angoisse et le chagrin par exemple. Hein. L'angoisse c'est une émotion qui est relativement peu bruyante en général, hein, mais quand on a l'habitude, en tout cas, on peut sentir relativement vite que l'autre est angoissé. L'angoisse, c'est quelque chose de froid et qui sépare les gens, c'est qui les éloigne. Hein. Donc vous voyez, dans cette émotion portée par l'autre, émotion éventuellement particulièrement discrète, il y a quelque chose de contagieux. Tandis que dans le chagrin, qui est une émotion un petit peu plus bruyante, hein, parce que ça se voit un peu plus, il peut y avoir des larmes, il peut y avoir des soubresauts, il peut y avoir des sanglots, par exemple, eh bien, ça c'est un facteur de communication plus généreux, plus ouvert, parce qu'on va plus vers celui qui a du chagrin.
Atlas du groupe anglais Marconi Union a remporté le défi scientifique de créer la musique la plus relaxante au monde. Ce morceau a tout simplement réduit le niveau de stress de 65% des participants. En plus d'avoir fait baisser la pression sanguine, le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire de 35% d'entre eux. Docteur Dominique Desmichel, ben juste avant cette musique, nous parlions des réactions du corps pour, face au danger, face au stress, face à toutes ces émotions qui déferlent sur nous. On peut les réguler, entre autres, par la musique. Et c'est vrai, écoutez ça, moi j'ai fait le test, hein, 5-10 minutes, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors, c'est scientifique, ça a sûrement des fréquences, tout ça, ça a été étudié. Hein. On entend aussi des battements du cœur, quelque chose de maternel.
Oui,
de...
oui tout étonnant, à fait. Hein. Bah, moi, je n'ai pas eu besoin d'en entendre 10 minutes. Vous me l'avez fait écouter, c'est la première fois que j'ai écouté cette musique, là, pendant peut-être 15-20 secondes. Et j'ai vraiment eu le sentiment que je ressentais tout de suite ça. Hein, ouais, ouais. Tout de suite. Alors, je pense que ça renvoie à tout ce que vous avez dit. Je dirais... pour moi, deux choses qui me frapperaient. La première, c'est la question de la régularité. La régularité, c'est toujours quelque chose qui est très désangoissant. Hein, voilà. Parce que dans la régularité, il ne va pas y avoir de surprise.
Ouais, s'il y a un gros coup de cymbale à un moment donné...
voilà, ça, vous allez avoir la fréquence cardiaque qui remonte, la tension qui remonte, ouais. Peut-être la sueur au front et tout ça. Hein. Donc là, cette régularité est très, très, très apaisante. Hein. Et puis la deuxième chose que je dirais aussi, c'est, je dirais plutôt le pas de la marche, d'une marche dont on sent d'emblée qu'elle va être longue, voilà, et que pour peut-être elle pourrait valoir en tant que marche, peu importe le but, mais qu'il y a la marche. Donc voilà, il y a quelque chose qui est très, et comme vous dites, je trouve enveloppant, maternel, contenant, sécurisant. Hein.
Eh bien, sur ce, poursuivons avec notre exploration de l'univers des émotions, avec les différents types d'émotions, parce que même si elles sont difficiles à classer, il reste deux grandes catégories dans lesquelles on peut tenter de les ranger.
Voilà, les gens qui ont travaillé beaucoup sur les émotions séparent ce qu'on a appelé les 6 émotions de base, que je vais rappeler, avec leur contenu et leurs caractéristiques. Et puis, les émotions qu'on dit plus sociales, c'est-à-dire qui sont plus élaborées. Alors, ces émotions de base, ce sont la colère, le dégoût, la joie, la peur, la surprise et la tristesse. Il semble bien, en tout cas, que pour ces 6 émotions, elles soient inscrites très, très précocement dans notre histoire, c'est-à-dire dans notre capacité corporelle, émotionnelle, psychique, hein, c'est-à-dire corps et âme au fond, pour qu'elle soit ressentie. Et vous savez très bien qu'un nouveau-né, si vous vous mettez à lui crier dessus, très très vite, il va se mettre à pleurer. Voilà, il comprend rien de ce que vous dites.
C'est pas de l'apprentissage du tout, quoi.
Voilà, il y a rien à apprendre. Et puis qu'un nouveau-né, si vous lui chantez une chanson, une berceuse, et ou si vous peut-être lui mettez la musique là, telle qu'on vient de l'écouter, va aussi ressentir quelque chose qui va être apaisant.
Et ça c'est semble-t-il universel.
Oui, je crois que c'est tout à fait universel. Même aussi pour la surprise. Hein. Alors la surprise, on pourrait se dire, c'est quelque chose déjà un tout petit peu plus compliqué, la surprise, parce que la surprise nécessite une forme de mémorisation. Hein. Si c'est quelque chose qu'on voit pour la première fois, c'est toujours une surprise. Et si c'est quelque chose qu'on voit pour la deuxième fois ou troisième fois, en tout cas, ça n'est plus une surprise. Or, le nouveau-né, on le sait très bien, c'est reconnaître la surprise. Comment on regarde ça? C'est-à-dire qu'on lui montre des images, et puis il y a une petite caméra qui regarde ses yeux et qui voit dans quelle direction il regarde l'image. Et on sait très très bien que les enfants qui ont vu une ou deux fois une image, qu'on leur représente, c'est-à-dire qu'on leur présente à nouveau, ne regardent plus cette image-là. Hein? C'est-à-dire, il y en a une nouvelle, ils vont être attirés par la nouveauté. Voilà. Alors, on sait bien que les commerciaux de notre époque surfent là-dessus, c'est-à-dire, on vous propose toujours du nouveau, et le nouveau, c'est toujours mieux qu'avant. Probablement, ça repose sur cette émotion primaire qui est la surprise.
Et dans le cas d'un enfant non-voyant, ça fonctionne également
voilà.
Voilà, les émotions sont là de la même manière. Quoi.
Et exactement. Hein. On reprendra peut-être plus tard cette notion-là pour les non-voyants. Mais les non-voyants, ils sont même capables de reconnaître, au fond, une sorte de, d'atmosphère qui nous paraîtrait à nous essentiellement perceptible par la vision.
Alors, voilà. Existe-t-il des handicaps ou des je sais pas si tu as des accidents au niveau du cerveau qui feraient que un être humain serait privé d'émotions? Ou ça paraît totalement impossible?
Oui, si, si. Privé d'émotions, bah.
D'émotions sociales, oui, je sais, avec l'espèce de désinhibition de.
Oui.
De
mais. Ce qu'on peut dire, c'est que probablement, en tout cas, dans la psychose, dans l'autisme en particulier, il y a un rapport à la capacité à être dans une relation juste avec ses émotions qui est déficitaire. Voilà. Hein. Donc, probablement, là, il y a quelque chose d'important. Il faut rappeler aussi quand même que dans ces émotions dites primaires, vous aviez évoqué ça lors de la première émission, l'apprentissage est tout à fait déterminant. Hein. Voilà, l'exemple classique qu'on donne, c'est un garçon, ça n'a pas le droit de pleurer, une fille, ça a le droit de pleurer. Hein. Donc on voit bien que là, il va y avoir un apprentissage inhibiteur de l'émotion qui va être très associé au sexe de l'enfant, par exemple.
Alors, la deuxième catégorie, ce sont les émotions dites sociales.
Voilà. Alors, ces émotions sociales, elles regroupent aussi plusieurs types d'émotions, comme la culpabilité, l'envie, la fierté, la jalousie, et puis la honte. Alors, on ne les retrouve pas chez les tout-petits. Hein. Il n'y a jamais ce sentiment de fierté, d'envie chez les enfants. Et en particulier, cette notion de fierté, voilà, va résulter essentiellement d'un apprentissage. Voilà, par exemple, ah, il a fait caca sur le pot, toute la famille applaudit. Et donc, l'enfant, il ne voit pas, sauf qu'il voit que tout le monde est content. Et du coup, il va ressentir l'émotion des adultes. Et il va engrammer ça comme quelque chose de positif.
Alors évidemment, ça dépend des cultures, j'imagine.
Voilà, ça dépend beaucoup des cultures. On sait que dans les cultures de type, dans les cultures asiatiques, par exemple, le fait de perdre la face est quelque chose qui est vécu de manière extrêmement, extrêmement tragique. Et les gens qui s'occupent de diplomatie, que ce soit une diplomatie interétatique ou une diplomatie commerciale, par exemple, savent parfaitement bien respecter ça. Pour que l'autre, venant d'une culture asiatique, ne perde jamais la face. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait important.
Alors on pourrait croire que ces émotions sont plus faciles à gérer, mais pas nécessairement.
Non, elles ne sont pas plus faciles à gérer, mais elles nécessitent déjà une intériorisation de quelque chose. Hein. Par exemple, pour la culpabilité, il faut avoir intériorisé, dans une certaine mesure, la notion de bien et de mal. Hein, si on a, tant qu'on n'a pas intériorisé le bien et le mal, voilà, Freud disait l'enfant est un pervers complet, pas parce que l'enfant a des attitudes perverses, c'est que lui, il essaye tout. Puis au bout d'un certain temps, il va apprendre que ça, on peut le faire et que ça, on peut pas le faire. C'est-à-dire, il aimerait bien taper son frère ou sa sœur pour lui piquer le jouet, mais il ne fait pas mal en soi, simplement il utilise son pouvoir. Et puis, voilà. Donc, cette notion de culpabilité nécessite l'apprentissage du bien et du mal. La notion de l'envie nécessite aussi l'idée qu'on lui a montré que cet objet pouvait être désirable. Voilà, il y a des objets qui vont être considérés comme désirables, soit par curiosité, par exemple, aller tapoter sur l'iPhone de son père ou de sa mère, ou parce que c'est présenté comme tel. La jalousie est un sentiment qui, en général, intervient quand même relativement plus tôt parce que les enjeux de rivalité, par exemple entre les frères et sœurs, on pourra en reparler si vous le souhaitez, sont des enjeux très fondamentaux.
Alors pour finir en quelques mots, on voit bien que ces émotions peuvent être faire le fait d'interdit. Hein, il est interdit de l'envie, il y a des interdictions sur l'envie, sur l'envie de meurtre, sur plein de choses. Tandis que ben on n'a jamais interdit à quelqu'un d'être joyeux ou d'avoir peur, ça on comprend bien voilà. La différence du coup.
On n'interdit pas d'être joyeux ou d'avoir peur, mais on peut dire que dans certaines circonstances, ça ne se fait pas, par exemple. Mais ça n'est pas interdit. Hein. Par exemple, on ne va pas rigoler ou raconter une blague à un enterrement, exemple. Hein. Mais en tout cas, c'est juste une histoire d'adaptation, mais le sentiment en lui-même ou l'émotion en elle-même n'est pas interdit. Tandis que dans la deuxième catégorie, en effet, ça nécessite un apprentissage. Et surtout, comme vous le soulignez, c'est associé à des valeurs morales, quoi. C'est associé à des valeurs morales, c'est-à-dire il y a une notion de bien et de mal, et on va y revenir, c'est-à-dire les sentiments, plus que les émotions, les sentiments, c'est ce qui donne de la valeur aux choses.
Ainsi, malheureusement, s'achève notre émission. Un grand merci au docteur Dominique Desmichel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours afin de poursuivre notre exploration de l'univers des émotions qui gouvernent notre cerveau.